improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A. d'Ibé. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 21 octobre. Il est 19h07 à Paris. Nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité, mon tout premier invité pour cette Improbox Radio numéro 1 et qui sera à mes côtés pendant environ une heure est un virtuose du journalisme engagé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personne ne peut rester indifférent face à son parcours, son engagement et ses combats. Il compose de véritables symphonies. En effet, ses mélodies sont constamment ancrées dans cette nécessité du collectif qui lui est si cher. Mais aussi, parfois, il aime les tourner en solo. Lorsqu'il part seul ou avec son caméraman faire le tour du monde pour nous apporter des images qui nous touchent et la plupart du temps nous bouleversent. Et cet homme sait que ces images, ces SES et CES, ces images font des miracles. En effet, il est partout, dans la presse écrite, à la télévision, mais surtout son territoire de prédilection, c'est le net, les réseaux sociaux. Mon invité s'est fait remarquer un certain nombre de fois ces dernières années. Parfois, ce sont des coups médiatiques, parfois même à ses dépens. Mais la plupart du temps, il sait ce qu'il fait. Il choisit bien ses notes, ses bémols, ses dièses. Et c'est toujours fonction de la tonalité de départ. La fondamentale n'est jamais bien loin, même s'il aime les accords qui frottent un peu et qui ne sonnent pas toujours juste à l'oreille de tout un chacun. Et il s'en amuse certainement un peu dans un coin de sa tête. Enfin, on va en parler, je sais pas, je me trompe peut-être. Il sait au fond que tout le monde trouve ses mélodies plutôt justes. Dénoncer les abus, tirer les signaux d'alarme, sensibiliser son entourage et si possible plus largement obtenir via des pétitions, des arrêtés de préfets, voire qui sait, faire voter des lois et transformer ses convictions en partitions. C'est ça son credo. Et puis j'adore parce que ces symphonies qui pourtant font ou sont un constat plutôt amer du monde qui nous entoure, eh bien se terminent toujours par une petite touche d'optimisme, un bel accord majeur pour nous faire un peu rêver et si possible d'un monde idéal, comme ces dernières pages de son livre, de son dernier livre, Choc, journal de guerre écologique, que j'ai lu vraiment comme on écouterait, allez, la symphonie du nouveau monde. Mais si, vous savez, cette symphonie numéro 9 qui commence en mi mineur, une tonalité on ne peut plus triste et qui inspire la désolation d'un monde qui part en cacahuète. Allez, je vous raconte un peu plus pour que vous compreniez la comparaison avec le livre de mon invité parce que quand même c'est super important. Cette symphonie a été composée à New York à la fin du 19e siècle par ce compositeur bohémien qu'est Antonin Dvorak et qui, entre autres, évoque un des plus grands drames humains de l'histoire, l'extermination des Indiens d'Amérique. Eh bien, cette symphonie du Nouveau Monde, qui fait référence donc à un nouveau monde cataclysmique et assassin, se termine pourtant par cet accord majeur magistral. Écoutez. Si ça, c'est pas magistral. Voilà. Symphonie du Nouveau Monde. La fin de la Symphonie du Nouveau Monde se termine alors qu'elle parle de choses dramatiques par cet accord majeur. Alors, on ne sait pas si cet accord majeur est là par cynisme, par sarcasme ou bien véritablement par volonté d'imaginer une suite optimiste possible à ce drame. Écoutez. Dingue. Là, il le matraque bien l'accord majeur là. Hein ? Si ça, c'est pas clair ? Voilà, si t'as pas compris ? Voilà, tu vois ? Eh bien, ce livre, ce journal de guerre écologique se termine aussi par cet accord majeur. Tel, selon moi, mais on va en parler, je sais pas, je me trompe peut-être, tel, je disais, un espoir de construire un monde meilleur. Et mon invité, je l'imagine un peu cynique, un peu sarcastique, mais aussi plein d'optimisme aussi. Enfin, je sais pas, on va en parler. J'avais envie de vous rencontrer depuis longtemps, j'avais envie de partager une petite heure de discussion avec vous, vous connaître plus, parler de la place de la créativité dans votre travail. TSF nous donne cette chance de le faire tous ensemble. Merci Hugo Clément d'être avec nous. Vous inaugurez cette nouvelle émission. Comment ça va ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Quelle intro, Ibrahim ! Et quel honneur d'être votre invité, en plus votre premier invité. Non, je suis ravi d'être ici, ravi d'être sur cette belle radio et ravi d'être avec vous.
Hugo, est-ce que j'ai dit des bêtises ?
Franchement, non. Enfin, c'est votre intro, elle est... Alors peut-être que il faut être plus modeste à mon égard parce que je pense pas être une symphonie.
Non mais dans cette idée du positif à la fin.
Ouais, ah oui. Clairement, j'essaye à chaque fois que je traite d'un sujet de proposer des pistes d'action parce que être simplement dans le constat que tout va mal et qu'on est dans une situation catastrophique, ce qui est la réalité, ça peut être déprimant et de la déprime ne découle pas l'action. Je pense que l'espoir réside dans l'action justement. Donc pour inciter les gens à agir et pour nous dire dire que c'est pas perdu, il faut toujours mettre en lumière les solutions et les choses qui fonctionnent.
Unissons-nous pour faire basculer la balance du bon côté. Ensemble, nous pouvons remporter cette nouvelle guerre mondiale. Pour vous, c'est une guerre mondiale ?
Ouais, c'est une guerre mondiale pour moi aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau de l'environnement. Ce mot « guerre », il m'est venu à un moment très particulier que je raconte dans le livre. J'étais aux îles Féroé et j'ai assisté à la chasse aux dauphins. C'est une tradition qui existe encore aujourd'hui aux îles Féroé. Donc ils rabattent des centaines de dauphins vers les plages, ils les tirent avec des crochets et puis ils les tuent à coups de couteau et la mer devient vraiment rouge sang. Donc c'est un bain de sang au sens propre. Et c'est là que ce mot de « guerre » m'est venu. C'est parce que c'est vraiment ça que cette image m'a évoqué, une guerre. Et ça se retrouve dans beaucoup d'endroits partout sur la planète avec d'un côté des gens, des femmes et des hommes qui se battent pour protéger ce qui peut encore l'être, pour éviter le désastre, pour proposer des solutions. Et de l'autre, des groupes industriels, des forces politiques qui continuent à détruire le vivant et la beauté du monde qui nous entoure sans vergogne. Donc pour moi, il y a vraiment aujourd'hui une guerre mondiale avec différents fronts. Et ce sont ces lignes de front que j'ai voulu parcourir avec ce livre.
Alors, comme on est ici dans une radio musicale, et comme la thématique de cette émission qui va donc avoir sa récurrence, parce que toute cette année on va se retrouver les 3e mercredis du mois vers 19h comme ça, avec des personnalités pour parler. Évidemment on va parler du livre, évidemment on va parler de vous, mais j'aimerais moi aussi parler de vos inspirations. Pourquoi vous choisissez le mot guerre? J'ai compris l'impact des images, j'ai compris l'impact du sang dans l'eau, et j'ai bien vu aussi comment vous avez construit ce bouquin de manière assez progressive. C'est pour ça que je parle aussi de symphonie. Vous commencez par un thème, vous développez, en fait il y a plusieurs histoires qui s'enchaînent les unes, un peu comme des mélodies qui s'enchaînent les unes après les autres, et c'est de plus en plus dramatique en fait. En fait, à chaque fois que je lisais, pour nos auditeurs, ce sont des histoires que vous racontez, des expériences. Ouais. Chaque expérience, vous parlez de chiffres, vous parlez de choses extrêmement pragmatiques, et vous donnez votre sentiment, et à chaque fois, on a l'impression qu'on a atteint le fond. Et en fait, il y a encore pire. Et à chaque fois, on se dit, mais ça peut pas être pire que ça. Et c'est encore pire. Et c'est encore pire. Et c'est un constat extrêmement amer au final. Et c'est pour ça que je parle de symphonie, parce qu'il y a cette dramaturgie, en fait. Est-ce que cette dramaturgie, vous y avez pensé en l'écrivant? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais mettre ça dans cet ordre-là? Et est-ce que le mot guerre, il est là uniquement parce que vraiment vous avez été choqué, que pour vous, c'est une guerre, ou parce que vous choisissez vos mots pour d'autres raisons? Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ça?
Je ne l'ai pas pensé aussi brillamment que vous le faites, parce que je n'ai pas votre talent, Ibrahim, mais je l'ai vraiment pensé comme un journal, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé comme ça, un journal de correspondants de guerre qui parcourent les fronts et qui essayent de transmettre à la fois des informations, les chiffres que vous citez, mais aussi des émotions, parce que je pense que dans le journalisme de guerre, enfin en tout cas le journalisme de terrain, le reportage, les émotions sont primordiales, et laisser transparaître une forme d'empathie avec ce qu'on vit, c'est la manière dont j'ai envie de travailler aujourd'hui. Je n'ai plus envie de faire du journalisme uniquement factuel, relativement froid, où je ne dis jamais ce que je pense. J'ai envie de raconter comment je vis les reportages sur le terrain.
Mais il y a des chiffres froids, qui vont froid dans le dos d'ailleurs.
Il y a des chiffres, c'est pour ça que guerre, pour moi, est tout à fait adapté. On fait une guerre aux vivants, on fait une guerre au monde qui nous entoure. Les êtres humains, ils représentent 0,01% de la vie sur Terre. Mais ils ont éliminé 83% des animaux sauvages, la moitié des plantes. 70% des oiseaux aujourd'hui sur la planète sont des poulets ou des poules, c'est-à-dire des volailles. Si vous prenez tout le poids, ce qu'on appelle la biomasse, donc le poids des êtres vivants, des choses vivantes, que ce soit les plantes ou les animaux, sur tous les mammifères de la planète, 60% des mammifères sont des animaux domestiques, des porcs, des vaches, des poulets. 36% sont des êtres humains. Et il reste seulement 4% de mammifères sauvages aujourd'hui sur la planète. Donc on est en train de faire le vide autour de nous.
Oui, c'est affligeant. Ouais.
On a construit un royaume dont on est les maîtres incontestés par la domination, la brutalité. Mais ce royaume est en train de devenir un cimetière. On est en train de devenir les rois d'un cimetière. Et plus ça va aller, plus ça va en s'aggravant. Et cette nouvelle extinction, puisque c'est ce que disent les scientifiques, hein, on a lancé la 6e extinction, nous les êtres humains, la première qui est causée par un être vivant, risque à terme de nous emporter, nous aussi, parce qu'on dépend en tant qu'espèce d'un écosystème en bonne santé, d'une chaîne de biodiversité, et si tout s'écroule autour de nous, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on risque à terme d'être emporté nous aussi.
Quand je vous entends
super
parler comme
ambiance,
ça,
hein.
Non, mais quand je vous entends parler comme ça, je me dis c'est une sorte de guerrier, une sorte de James Bond. Alors je fais une transition de dingue évidemment parce qu'on va écouter un peu de musique. Vous êtes une sorte de James Bond de l'écologie, je sais pas, une sorte d'enquêteur incroyable qui justicier, qui va essayer de faire en sorte que la petite boîte n'explose pas.
Je mets en lumière les James Bond de l'écologie. Moi, je vois plutôt mon rôle comme ça. Je mets la lumière sur les femmes et les hommes qui combattent tous les jours sur le terrain, j'essaye de leur donner de l'écho à leurs actions. Moi, je suis pas un James Bond, mais par contre, je fais tout pour qu'on entende et qu'on écoute enfin les James Bond de l'écologie.
Merci Hugo. En fait, j'ai parlé de James Bond parce que je voulais faire un petit clin d'œil. On a des invités sur le plateau, des invités musiciens et chanteuses, musiciens incroyables, qui vont jouer un extrait de James Bond de Goldfinger. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Alfio Origlio au piano. C'est un extrait de son album Secret Places. Il est accompagné de Celia Kameni au chant, de Brice Bered à la contrebasse et de Zaza Desiderio à la batterie.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Alfio, Alfio Origlio au piano. Télérama parle de lui comme un talent prodigieux. C'est un extrait de son album Secret Places avec Célia Kameni au chant. Merci Célia. Bah là aussi, en fait, le monde parle de vous comme d'une pépite à découvrir absolument. On vous connaît en particulier avec votre collaboration avec le Amazing Keystone, mais pas seulement, évidemment. Brice Bered à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie. Voilà, merci à vous.
Sublime.
Alors ?
Ah, j'ai trouvé ça magnifique. Bravo, franchement, c'est vraiment extraordinaire.
Est-ce que le James Bond s'est senti inspiré ?
J'ai trouvé. Non, franchement, je suis assez fasciné par cette radio parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on l'écoute, et je dis pas ça pour vous flatter parce que je suis là, on se sent bien instantanément. Mon père est un grand fan de jazz et donc je suis sûr qu'il m'écoute.
Vous avez grandi dans le jazz. Est-ce que quand on est journaliste, avant d'en arriver à ce niveau de journalisme, avec cette exigence-là, est-ce que il y a l'équivalent des gammes. Qu'est-ce qu'on fait comme gamme ? Comment on se prépare ? Comment on travaille ? C'est quoi l'expérience du travail quand on est journaliste ? Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que le journalisme, c'est l'image qu'on a souvent des musiciens qui est fausse, qui est que c'est absolument inné. En fait, il y a des heures, évidemment, de gamme et de travail et de répétition. Est-ce que le journalisme, c'est la même chose ?
Ouais, bien sûr, on bouffe du terrain, comme on dit. On commence nos débuts de reporter par enchaîner les reportages, pas forcément très gratifiants au début. Alors, moi, j'ai adoré ces premières années, on passe énormément de temps sur le terrain, on passe énormément de temps loin de nos familles et je pense qu'on apprend à être journaliste, à être reporter au contact du réel et il n'y a pas vraiment d'école qui prépare à ça, il y a des écoles de journalisme qui nous donnent les bases, mais il n'y a que le terrain et l'expérience du terrain qui peut nous permettre de devenir pro.
Mais ça n'existe pas, l'école.
Je pense qu'on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre en tant que journaliste. Moi, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours.
Comme tout le monde.
Ouais. Et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un métier où on rencontre des gens différents tous les jours. On rencontre des gens passionnants, que ce soit des musiciens, des scientifiques, des militants et des hommes politiques. Même ça peut être passionnant aussi.
Ah bon ? Ok.
Oui, ça peut aussi être passionnant par moment. Et je trouve ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment un métier qu'on est très chanceux de faire.
Réveiller les consciences. Ça s'apprend pas, c'est quelque chose que
si, je
apprendre
pense...
à réveiller les consciences.
Bah, en fait, moi au début j'en avais pas conscience que moi j'ai choisi le journalisme pour une raison assez égoïste finalement. J'ai choisi le journalisme pour voyager, pour être tout le temps un peu à droite à gauche. Je regardais le JT de France 2 avec mes parents et j'étais fasciné de voir ces journalistes qui un jour étaient au Liban, la semaine d'après étaient aux États-Unis, la semaine suivante en Afrique, et je trouvais ça vraiment fascinant de voir ces gens toujours là où ça se passe partout dans le monde. Et donc c'est vraiment ça a été ça le moteur au début.
Que votre poux batte au même rythme
exactement,
que le monde. Quoi.
Exactement. Donc c'était assez égoïste quoi. Et puis petit à petit j'ai pris conscience de l'impact du journalisme et de la force de ce métier qui est un instrument comme vous l'avez dit qui permet de changer les choses qui permet de rentrer dans un rapport de force avec les autres puissances qu'elles soient politiques, économiques et qui permet aux citoyens et aux citoyennes de prendre des décisions pour elles-mêmes, pour eux-mêmes en connaissance de cause.
Et vous dites à un moment donné notre attitude est suicidaire, la survie des humains dépend du bon fonctionnement de l'environnement dans lequel ils sont apparus et ont évolué. Sans biodiversité, sans écosystème sain, pas d'avenir envisageable, etc. etc. À cet égard, la pandémie du coronavirus liée à notre rapport destructeur au monde sauvage sonne comme un avertissement. Il n'y a pas un moment où quand on est comme vous, c'est-à-dire ce journaliste qui va là où ça ne va pas, en fait. Hein, nous les artistes, on essaie toujours d'être là où ça va, en fait, parce que quelque part, notre mission, c'est d'égayer. Mais vous êtes pas seulement d'égayer, évidemment. Hein, je ne voudrais pas non plus...
Vous racontez le monde aussi.
On essaie de raconter le monde, mais avec une forme de poésie. Mmh. Alors que le journaliste que vous êtes, Hugo, Clément, en fait, vous êtes là pour dire « Hé, là, ça va pas, il va falloir qu'on se bouge un peu, là, ça va pas, voilà les chiffres, voilà, dans ta gueule, en fait. » C'est ça que ça veut dire, pardon de le dire comme ça,
mais c'est
ça que
ça veut
dire. Et c'est ce que dit, en fait, ce bouquin. Il n'y a pas un moment où on est un peu... Pardon, mais pas dégoûté, mais il n'y a pas un truc où on se dit j'ai envie de vous tutoyer.
On peut se tutoyer.
Il n'y a pas un moment où tu te dis merde, en fait, j'en ai marre, j'arrête, parce que c'est trop nul tout ça, c'est trop dégueulasse. J'en ai marre, je vais passer à un truc plus fun, plus poétique, plus cool.
Bah, il peut y avoir des moments de découragement, évidemment, quand on assiste à des scènes qui sont difficiles à vivre. C'était le cas de la chasse aux dauphins, mais il y en a eu plein d'autres. On peut se sentir découragé, mais moi, je prends toujours le prisme des résistants, des combattantes et des combattants. Et dans chaque reportage, dans chaque chapitre de ce livre, il y a des gens qui combattent et qui remportent des victoires. On peut parler par exemple de Gilles Moine, qui est un homme extraordinaire, qui est à la tête d'un centre de soins pour la faune sauvage dans le Jura, qui travaille notamment sur les lynx. Il soigne les lynx blessés, il les relâche, il les protège contre les braconniers, et c'est quelqu'un qui au quotidien avec ses équipes remporte des victoires et protège concrètement cette espèce. Et quand on passe une semaine, deux semaines avec Gilles Moine sur le terrain, on repart de là, on n'est pas du tout désespéré, même si on a vu des lynx se faire braconner, on n'est pas désespéré, même si on a su que tel ou tel chasseur avait eu la gâchette un peu facile, on est plein d'espoir parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui résistent et qui remportent des batailles. Il faut aussi mettre ça en avant. Il y a des choses qui marchent, il y a des gens qui accomplissent des choses formidables. Et donc certes, le constat est indispensable parce qu'on ne va pas y aller par quatre chemins, on est dans une situation qui est catastrophique. Tout le monde le dit, les scientifiques le disent, il faut les écouter, mais il faut aussi donner la parole aux milliers, aux dizaines de milliers de gens formidables qui prennent des risques sur le terrain et qui réussissent.
Donc on descend dans cette émission un peu comme la symphonie dont je parlais, puis on va remonter un peu à un moment donné. On va revenir un peu à de la musique maintenant. Je voulais vous entendre Alfio Origlio. Vous allez rejouer dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous allez rejouer juste après ?
Alors après, nous allons jouer un arrangement sur une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle The Secret Life of Plants, la vie secrète des plantes.
C'est marrant, ça résonne bien là sur tout ce qu'on est en train de se dire là.
Ouais, carrément.
Et ben juste après ça, on va écouter Alfio Origlio avec The Secret of Plants, The Secret Life of Plants, accompagné par Celia Kameni aussi, avec Brice Bered et Zaza Desiredo.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Alfio Origlio au piano, Celia Kameni au chant, Brice Berer, je dis depuis tout à l'heure Brice Berer à la contrebasse, Zaza Desiderio à la batterie, The Secret Life of Plants de Stevie Wonder.
I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed. And what we think as insignificant provides the but who I am to doubt or question the inevitable being. For it is a but a few discoveries we find inside the secret.
Oh. discoveries we find inside the secret life. The secret life of
Improbox, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
L'incroyable voix de Célia Kameni en live. Hugo, Clément, un jour on se dira on était là
ouais.
quand elle a chanté dans ce petit studio de TSF Jazz en direct, un petit concert en privé pour nous avec ses pianos et arrangements absolument sublimes d'Alfio Origlio. Merci pour ce magnifique Secret Life of Plants avec à la contrebasse Brice Berrer et à la batterie Zaza Desiderio. C'est un quartet absolument sublime qui réinvente un peu aussi cette chanson et puis pas mal d'autres chansons sur cet album que j'adore, Secret Places, que je conseille absolument à tout le monde. Cette manière de remodeler un peu les standards des chansons que tout le monde connaît, ça me fait un peu penser à vous et à votre manière de remodeler aussi le journalisme. Est-ce que vous considérez, Hugo Clément, que votre manière de travailler est une... Est-ce que vous avez l'impression de transformer un peu le journalisme habituel? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une forme de tradition? Est-ce que vous avez l'impression de faire tomber des barrières? Ou est-ce que, enfin, comment vous vous voyez par rapport aux autres journalistes? Je ne fais pas de comparaison, je parle plutôt de votre démarche.
Je pense que je suis pas le seul à proposer le type de journalisme que je pratique aujourd'hui. On est plusieurs, il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant moi. Je pense que le journalisme engagé, déjà c'est une tradition en France, ça existe depuis très longtemps, et il est complémentaire avec les autres types de journalisme. Pour moi, il est pas suffisant, mais il est complémentaire. On a du journalisme factuel, du journalisme d'investigation, du journalisme de chaîne info, de breaking news, comme on appelle ça. Et je pense que toutes ces formes de journalisme se complètent et font la panoplie journalistique des démocraties. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande pour le journalisme engagé, c'est-à-dire des journalistes qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Je pense que plus personne ne croit vraiment à l'objectivité totale des journalistes. Je veux dire, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, donc forcément, on est touché particulièrement par tel ou tel sujet. Quand on est sur le terrain et qu'on assiste à des choses, forcément, ça transparaît sur notre manière de travailler. Et moi, je préfère assumer ça tout en gardant les codes du journalisme et en faisant le travail honnêtement. Voilà, il ne faut pas déformer les faits pour les faire coller à ce qu'on pense.
Est-ce que vous avez l'impression de mûrir en tant que journaliste ?
Oui, je pense que plus les années passent et plus je mûris et plus j'apprends.
Il y a des choses que vous regrettez ou pas ?
Bien sûr, il y a des choses que je regrette.
Quoi ?
Il y a des reportages que j'ai fait au début de ma carrière où j'étais peut-être pas exact sur les faits, où je me suis trompé, où j'ai relayé parfois des fausses informations. Ça m'est probablement arrivé, comme tous les journalistes. Et je pense qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, on apprend à repérer les pièges, on est plus prudent, on fait plus attention. Et j'essaye aujourd'hui d'éviter tous les pièges dans lesquels les journalistes peuvent tomber. Il y en a de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec le développement des fausses informations. On peut être trompé, même en étant de bonne foi. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et il faut savoir reconnaître qu'on est un être humain avec ses failles.
Est-ce qu'il y a un danger dans... Moi, je pense que... Évidemment, si je pose la question, c'est que je pense que oui. Est-ce qu'il y a un danger dans ce journalisme qui est un peu parfois peut-être un peu trop spontané, pas assez réfléchi? On cherche évidemment le buzz, ça tout le monde, évidemment, on le sait, mais on cherche des scoops. Parfois, on en arrive même, je trouve, à des limites, on est borderline, on est capable presque de démolir son frère ou son cousin ou son prochain pour avoir le scoop qu'il faut, etc. Et cette bienveillance, c'est-à-dire ce qu'il y a de bienveillant dans le journalisme, moi, je trouve qu'il se perd un peu. Et avec vous, quand je vous lis, Hugo Clément, je retrouve en même temps un engagement, mais avec de la bienveillance. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je trouve en tout cas que dans ce livre-là, cette bienveillance, elle me surprend un peu de votre part aussi, parce que je sais que vous venez d'un monde où les scoops, il faut être au taquet, ouais. Il faut être toujours là.
Mais moi, j'ai décidé...
Je m'attendais, si vous voulez, je vous coupe un peu, mais en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu... parfois, je me disais... Hugo Clément, il va mettre un peu du sale, il va mettre un truc, il va faire du clash, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, de bienveillant, Et ça, ça fait du bien, en fait.
Ben, en tout cas, j'essaye d'être le plus curieux possible. Et je pense que c'est vraiment la qualité essentielle pour les journalistes, c'est d'être curieux et d'aller voir les gens, y compris avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est ce que je fais dans ce livre, c'est ce que je fais dans les émissions. Je vais voir les gens qui causent des dommages à l'environnement, qui participent à détruire la biodiversité, pour recueillir leur point de vue et les faire réagir sur ça. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avancer masqué. Moi, quand je vais voir les gens, j'essaye pas de les piéger. J'essaye pas de me présenter sous un autre jour, de cacher mon identité. La plupart des gens savent ce que je pense sur tel ou tel sujet, savent ce que j'ai pu faire comme reportage. Et donc, même les gens qui sont pas d'accord avec ma vision des choses ou qui sont pas d'accord avec ma manière de travailler, je pense qu'ils reconnaissent cette transparence et que donc ils sont plus en confiance finalement parce qu'ils savent comment me situer et ils savent la manière dont je peux aborder certains problèmes.
Et puis vous cherchez le dialogue aussi, parce que je vois pas.
Et le dialogue, c'est super important.
Voilà, il y a une phrase moi qui m'a marqué, c'était la page 16 de ce bouquin que je rappelle, qui s'appelle Journal de guerre écologique, mais en même temps c'est pas que la guerre. Les bateaux appartiennent à quelqu'un, mais l'océan est à tout le monde, donc à personne. Et là vous interrogez, vous dites, mais pourquoi prendre soin de quelque chose qui n'est pas à moi, qui n'est pas à moi? Et c'est un peu la question qu'on a envie de dire à tout le monde, mais en fait c'est à tout le monde. Occupons-nous de notre maison, en fait. Et c'est ce dialogue là que vous créez avec la personne qui lit et qui vous écoute.
Et ça, c'est une idée centrale dans la question environnementale. Effectivement, la nature n'appartient à personne, et donc c'est difficile d'en prendre soin, parce que quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous allez défendre votre propriété, vous allez la préserver, faire en sorte qu'elle soit bien. Et comme, effectivement, je prends l'exemple des océans, mais c'est très vrai, une partie des océans, une grande partie des océans sont ce qu'on appelle des eaux internationales, donc elles n'appartiennent à personne, à aucun État. Et du coup, c'est très difficile de protéger ces zones parce que personne n'est là pour faire régner une loi qui n'existe pas. Et donc, c'est une zone de non-droit, quoi. La haute mer, les eaux internationales, c'est un massacre tous les jours absolument hallucinant. Il y a entre, pour avoir une idée quand même de quoi on parle, il y a entre 1 000 et 2500 milliards de poissons qui sont tués chaque année. 2500 milliards.
Et pas que par
année.
La pêche.
Et pas que par la pêche, mais beaucoup par la pêche. Mmh. Et une partie de cette pêche, environ 30% selon le WWF, c'est ce qu'on appelle du bycatch, c'est-à-dire des prises accessoires. Donc c'est des poissons qui sont pêchés et qui sont rejetés à la mer parce qu'ils sont pas commercialisables, morts évidemment. Donc 30% de 2500 milliards, c'est des centaines de milliards d'animaux marins tous les ans qui sont tués pour rien, qui ne sont même pas mangés parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de l'industrie et qui ne correspondent pas à ce qu'attend le consommateur. Sur certaines pêcheries, par exemple le chalutage de crevettes en Asie, vous avez 95% de bycatch, c'est-à-dire que sur 100 kilos que vous remontez à bord, il y a 5 kilos de crevettes. 95 kilos, c'est d'autres espèces que vous n'allez pas vendre et que vous rejetez mort à la mer. Et ça se passe en France en ce moment, on a un gros problème avec les dauphins. On est le pays d'Europe qui tue le plus de dauphins, plus de 10 000 chaque année sont tués en France, parce qu'ils sont pris dans les filets de pêche des navires français qui pêchent le bar. Et en fait, le dauphin et le bar, ils chassent les mêmes proies, donc ils sont dans les mêmes zones de chasse. Et évidemment, quand vous passez avec un chalut qui prend tout, vous prenez les bars, mais vous prenez aussi les dauphins. Et donc on retrouve très régulièrement des cadavres de dauphins sur les plages en France, morts, noyés, et c'est un vrai problème. C'est cette surpêche qui est liée aux demandes des consommateurs. On mange trop de poissons, on mange trop de viande, tout le monde le dit, mais pourtant on continue à soutenir ces industries.
Et ces chiffres-là, on ne peut pas les improviser, on ne peut pas les inventer, ils existent, ce sont des faits. Bon, on avait dit qu'on allait remonter la pente, Hugo Clément.
On va remonter la pente. Mais je peux vous parler de Lulu. Tiens, j'ai pensé à ça pendant la musique.
C'est qui,
je me suis dit, il faut que je leur parle de Lulu. Lulu, c'est une dame qui a à peu près 80 ans, qui habite dans le Morvan, qui est une région française magnifique, très boisée. Et en fait, ce qui se passe dans le Morvan, c'est que petit à petit, on détruit les forêts naturelles de feuillus, donc très diversifiées, avec du hêtre, du chêne, du frêne, etc. Et on les remplace par des plantations de résineux, donc des monocultures d'une espèce qu'on appelle le pin douglas, qu'on plante en ligne, et on remplace les feuillus par des pins douglas. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça détruit la biodiversité, ça fait des plantations où il y a très peu de vie par rapport à une forêt diversifiée. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent de planter des résineux qu'on peut récolter tous les 40 ans, alors qu'un chêne arrive à maturité beaucoup plus tard. Donc ça rapporte plus d'argent aux propriétaires terriens. Et pour s'opposer à cet enracinement, c'est comme ça que s'appelle le phénomène, il y a des gens menés notamment par Lulu, qui est une dame âgée du Morvan, qui se sont mis ensemble pour acheter des forêts, tout simplement. Ils se sont regroupés entre citoyens, en groupements forestiers, et ils achètent des parcelles de forêts naturelles, de forêts feuillues,
pour les sauver,
pour empêcher qu'elles soient rasées et remplacées par des arbres résineux. Mmh. Et avec des gens comme Lulu, on peut remonter la pente, et je te laisse continuer.
Merci pour cette belle touche. Alors, l'émission s'appelle Improbox. On est ici pour improviser, on est dans une petite boîte, un petit studio de TSF. D'ailleurs, je voudrais dire un petit clin d'œil, un petit merci à Jean-Charles Doucan qui m'aide qui réalise d'ailleurs cette émission, cette première donc de Improbox, on est la numéro 1. Et il va y avoir à chaque troisième mercredi du mois, donc dans cette Improbox, il va y avoir un petit moment un peu particulier où on va demander à notre invité d'inspirer. Alors, je vais vous poser quelques petites questions, mais d'inspirer nos invités musicaux. Alors, je vais vous poser deux, trois petites questions, Hugo, et ça va être un peu les petits points de départ d'une improvisation qui va être faite vraiment en live. On est comme dans un concert ici.
Okay.
Nos invités musiciens vont se lancer donc dans une improvisation dingue, mais unique. Donc, improvisation, qui dit improvisation, c'est que ça. Il n'y a que ces personnes-là qui nous écoutent maintenant qui auront la possibilité d'écouter cette improvisation. Deux petites questions à vous poser. Deux, trois petites questions à vous poser, Hugo.
Ça me stresse. Hugo, quelle responsabilité?
D'abord, si vous étiez une note. Vous qui n'avez pas aimé le solfège, si j'ai bien compris.
Ah ouais, j'ai détesté le solfège.
Laquelle vous seriez? Vous sentez plus do, plus sol, plus la?
Plus sol, ça ressemble à soleil, ça doit être bon signe.
Ah, très bien, très bien, très bien. Donc les amis, vous gardez le sol en tête.
C'est la note la plus compliquée ou pas? Non,
je
non
sais pas.
J'en sais rien, j'ai dit au hasard, je suis désolé. Hein.
Ils aiment bien le sol, c'est cool. Non, si vous dites sol dièse, c'est un peu plus... Non, Votre vie, vous la qualifieriez, hein, parce
oui.
que je vais finir par réussir à parler, de plutôt paisible, plutôt active ou assez stressante. Vous avez compris un peu l'idée.
Plutôt active.
Plutôt active.
Mais heureuse.
Active mais heureuse. Les amis, vous gardez ça en tête. Et l'allure de votre vie, est-ce que c'est plutôt tranquillou? Est-ce que ça va? Ou est-ce que c'est bien speed?
C'est bien speed.
C'est bien speed. Ah, on sent que ça va bouger, ça va bouger. Et donnez-moi deux petits sentiments, deux petites émotions pour qualifier votre état d'esprit aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez heureux. Est-ce qu'il y a peut-être un autre sentiment, une autre...
Reconnaissant et bienveillant.
Reconnaissant, bienveillant, vous entendez les amis? Pour finir, juste, vous pouvez donner une petite impulsion. Alors évidemment, nos invités musiciens, Alfio Riglio au piano, Célia Kameni au chant, Brice Berrer à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie vont prendre quand même 2-3 petites minutes pour se papoter un tout petit peu, pour dire comment ils vont construire leur improvisation.
Mais... Ah non, ils y vont directement.
Non, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous lancer une petite impulsion? Écoutez bien les amis, une petite impulsion, un truc musical. Je sais que vous avez fait de la batterie quand vous étiez plus jeune.
Une idée. Alors, je m'excuse par avance auprès des auditeurs de TSF Jazz qui ne doivent pas être habitués
un
à avoir une prestation de si basse qualité.
Un truc simple,
genre un rythme quoi.
Ça peut être un petit rythme, voilà. Comme ça Zaza Desiderio, okay. Qui est un batteur brésilien incroyable, va entendre ça et ça va le motiver.
Alors.
Ouh, je sens que ça va danser. Yeah. Ok, alors on va juste après ça, on va vous écouter improviser les amis sur ces idées-là, sur ces thèmes-là en sol, hein. Oubliez pas, il y a le sol, hein, derrière ça. Très bien les amis. Allez, à tout de suite.
Improbox.
Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Absolument, c'est ça. Inventer, vous êtes donc sur Improbox sur TSF Jazz. Hugo Clément, notre invité, a donné son inspiration, ses mots, son rythme, sa couleur. Et c'est Alfio Riglio au piano, Célia Kameni au chant, Brice Berrer à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie qui vont improviser pendant 3-4 minutes. C'est inédit, exclusif et c'est sur TSF.
Oh,
Maalouf sur TSF Jazz.
Trop bien. Célia Kameni au chant, Alfio Riglio au piano, Brice Berrer à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie. Vous nous avez régalé. Merci beaucoup. J'ai cru comprendre tout à l'heure en parlant avant l'émission que Célia, je crois que c'était la première fois qu'elle improvisait dans un cadre public, en tout cas sur un truc complètement free total. Ça fait plaisir. Hugo, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez. Je vous conseille d'aller.
Oui, c'est grâce à moi d'ailleurs.
Je vous conseille. Hugo Clément, non, je vous conseille d'aller tout de suite à la SACEM m'inscrire parce que vous
qui avez. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, bravo. C'est impressionnant. Impressionnant. Ça devrait être remboursé par la Sécu.
Voilà, ça fait du bien, surtout une période. Surtout cette période un peu compliquée, on n'a plus tellement le droit d'aller voir du live. Et ben là, TSF nous offre la possibilité de faire du vrai live. Merci les amis. C'était extraordinaire de vous avoir. Hugo Clément. C'était un chouette moment avec vous.
Merci,
on a tellement
Brahim,
à dire, il y a tellement à dire dans ce bouquin.
Ouais.
C'est votre deuxième livre ?
Ouais, c'est le deuxième.
Vous avez déjà commencé le troisième ou pas encore ?
Ça va pas tarder.
Vous écrivez vite ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui prend son temps ?
J'écris en fait beaucoup pendant les voyages, quoi. J'écris beaucoup dans le train, j'écris beaucoup quand je suis à l'étranger, quand les tournages se terminent et que je suis à l'hôtel.
Ça sort d'un coup comme ça, comme une impro, comme on vient d'entendre là ?
Ouais,
ou
en fait, je prends des notes au fur et à mesure sur des petits carnets et puis après, le soir, je mets un peu tout en ordre et ouais, ça sort assez vite, ouais.
Bon.
Il y a des moments où ça bloque hein, aussi, hein.
Je peux imaginer, il y a le syndrome de la feuille blanche, c'est pas que pour les musiciens, c'est pas que pour les chanteurs.
Ouais, après c'est pas de la fiction, donc c'est toujours plus facile d'écrire ce qu'on voit, de décrire ce qu'on vit. La fiction, je pense, c'est un exercice d'écriture plus difficile.
Mais c'est très facile à lire votre livre, ça se lit d'une traite. Moi je l'ai lu en un shot, comme j'ai dit.
Bah il y a 6 pages, donc ça va vite. Non, je plaisante.
Tout le monde, il y en a un tout petit peu plus quand même. Allez, on est à 200 et quelques pages. Journal de guerre écologique. Pour finir cette improbox numéro 1, Hugo, j'avais envie de faire un petit parallèle. C'était on va envoyer une petite musique pour finir. C'était une musique qui a été enregistrée en 1966 pour le label Capitol. Ça s'appelle Mercy, Mercy, Mercy Live at the Club. C'est Cannonball Adderley. Alors, contrairement à ce que son nom indique, ça n'a pas été enregistré dans un club de Chicago. Mais dans un studio hollywoodien, en présence d'un public à qui on a visiblement demandé de créer une sorte d'ambiance jazz club. Cannonball Adderley, ce saxophoniste de génie qui à l'époque avait à peine 38 ans et qui vient de se faire un peu connaître parce qu'il a participé à 2-3 petits projets d'un gars qui cartonnait à l'époque qui s'appelait Miles Davis et qui est accompagné par son petit frère qui a à peine 2 ans de moins que lui qui s'appelle Nat Adderley au cornet avec Victor Gaskin à la contrebasse et Roy McCurdy à la batterie, surtout un autre gars qui a à peine 3-4 ans de moins qu'eux et qui va cartonner quelques années plus tard, mais qui pour l'instant vient tout juste de débarquer d'Autriche après avoir gagné un concours de jeunes talents. C'est le claviériste Joe Zawinul qui là est donc au Fender de Rhodes et qui se trouve être aussi le compositeur de ce morceau qui a un succès public immédiat, très grand public. Ça cartonne, ça devient quelques années plus tard un véritable standard, un titre incontournable. Vous allez voir d'ailleurs, on sent bien qu'il y a des moments où ils improvisent vraiment dedans et c'est ça, c'est génial. Alors pourquoi ce titre, Hugo Clément ? Parce que c'était mon petit cadeau avant de nous quitter. Au-delà de la musique, il y a aussi ce discours incroyable en introduction, vous allez voir, où le jeune Cannonball Adderley parle. Il parle de l'adversité. J'avais envie de clore cette première d'improbox avec ce musicien, surtout cet homme qui explique sa réponse face à l'adversité. Je pense que c'est un magnifique message pour tous ceux qui, comme nous, ont des rêves, des idéaux. Donc merci, 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 c'est pitié, pitié, pitié. Ça dit plutôt mercy, mercy, mercy d'ailleurs. Donc ayons pitié, aidons-nous les uns les autres pour ne pas se faire la guerre. Ayons pitié de notre planète qui nous supporte malgré ce qu'on lui fait subir. Ayons pitié des êtres vivants, de tous les êtres vivants qui y logent. Évidemment, tout ceci n'est pas étranger à ce climat amer dans lequel nous sommes tous après l'assassinat sauvage d'un homme qui ne souhaitait que transmettre, un prof, Samuel Paty, à qui on pense aujourd'hui évidemment très fort. Merci Hugo Clément.
Merci Brahim, c'était un honneur et j'admire beaucoup l'artiste que vous êtes, donc je suis très heureux d'être venu ici.
Merci, merci Jean-Charles Doucan pour la réalisation. Donc c'était une improbox, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Merci à tous les musiciens, Alfio Origlio, Célia Kameni, au chant Brice Berrer, Zaza Desiderio et maintenant c'est Cannonball Adderley, Mercy, Mercy, Mercy. À bientôt le 18 novembre pour Improbox Radio Number 2.
You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy.
Mercy, 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 mercy.